Toute Santé, le magazine Prévention Santé de Radio Campus Rennes.
En partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé et la Région Bretagne.
Tu ne devrais pas manger ça, j'ai vu à la télé que c'était mauvais, on m'a dit que c'était nocif pour la santé, ou encore c'est dégueulasse. Qui n'a pas entendu ces reproches au moment de passer à table, à moins d'avoir déjà prononcé ces mots nous-mêmes? Nous sommes de plus en plus à nous sentir mal devant nos assiettes, quitte à pratiquer l'éviction pour diverses raisons. Le professeur Philippe Legrand est biochimiste, dirigeant du laboratoire de biochimie nutrition humaine d'AgroCampus INRA à Rennes. Ses recherches, menées sur les différentes formes d'acides gras afin d'étudier leurs fonctions cellulaires sur nos organismes, peuvent être synthétisées en ces termes: coup de pied dans le plat, n'avalez plus tout ce qu'on vous dit sur l'alimentation. Ces deux phrases composent le titre de son ouvrage paru afin de faire fi des nombreuses idées reçues sur la composition de notre alimentation. L'occasion pour Enjeux de Santé d'y rencontrer l'auteur était évidente afin de nous faire connaître son point de vue sur notre comportement d'évicteur. Alors, avant de vous priver inutilement, faites marcher votre bon sens à l'écoute de la première partie sur deux de notre entretien avec le professeur Philippe Legrand.
Mon laboratoire est ici à AgroCampus Rennes, c'est l'École Nationale Supérieure Agronomique d'origine. Et pour la partie chère, recherche, c'est l'INRA, donc l'Institut National de la Recherche Agronomique, qui, comme son nom ne l'indique pas forcément, a pris en charge historiquement, depuis plus de 40 ans, les sciences de l'alimentation, et y compris la recherche fondamentale sur les nutriments dans une optique santé. Et effectivement, c'est assez loin de l'agronomie. Et donc le laboratoire ici est à Rennes, rue de Saint-Brieuc.
Vous avez écrit un ouvrage qui s'intitule « Coup de pied dans le plat, n'avalez plus ce qu'on vous dit sur l'alimentation ». Pour défendre quelles idées ?
Alors j'ai écrit ce livre avant tout pour rassurer. C'est vrai qu'un chercheur, surtout dans les sciences fondamentales, n'écrit pas forcément tous les jours des livres de vulgarisation qui sont destinés vraiment à tout le monde. C'est pas un livre de science, c'est un livre de bon sens et basé évidemment sur la connaissance scientifique. Si je l'ai écrit, c'est parce que je trouve qu'il y a trop de gens qui sont tristes devant leur assiette et qui sont surtout anxieux, voire un peu névrosés, en imaginant que finalement manger c'est un stress, c'est un danger, c'est une épreuve, alors qu'on est dans un pays où on n'a jamais eu autant d'indépendance alimentaire, où tous les produits sont à la fois très sains, au sens il n'y a plus de risque, on ne meurt plus, on ne s'empoisonne plus, il faut le dire. On est tous un peu névrosés, alors du coup on peut avoir des craintes injustifiées. Et la base des connaissances que nous, chercheurs, produisons en physiologie de la nutrition permet d'expliquer aussi, de manière un petit peu humoristique mais toujours rassurante, qu'il faut que tous ces jeunes, là, enfin, et moins jeunes, arrêtent de stresser. Se nourrir, c'est reste une chance, surtout quand on la compare à la malnutrition qui règne encore au niveau de 700 millions de personnes sur le globe. Donc ça fait un petit peu ridicule de devenir obsédé de la sécurité ou éventuellement d'être amené à prendre des risques tellement on a de la désinformation par des gens qui adorent faire peur ou faire rêver. Et du coup, le grand public, quelquefois, il se fait un petit peu avoir en faisant ce qu'on appelle des évictions. Et c'est le nouveau danger qui guette nos sociétés pourtant très repues, c'est d'éliminer tout un pan de la nutrition et de rentrer dans le risque par la carence ou par le déficit. On réinvente les malnutritions. Et ça, c'est trop triste. Ça touche peu les adultes, mais ça peut toucher les enfants. Et c'est la deuxième raison qui m'a poussé à écrire ce livre, mais toujours dans un ton rassurant et un peu d'humour, parce que ces sujets-là, malgré tout, peuvent aussi être au support d'idéologies où quelquefois certains ne rigolent pas du tout.
Il y a 100 ans, il me semble qu'on était beaucoup moins difficile que maintenant et on tendait moins à éviter certains aliments parce que tout simplement on était content peut-être d'avoir quelque chose dans son assiette et on faisait moins le difficile. Et bien pourquoi ? Est-ce que c'est réellement un choix qui vient de nous ou est-ce que c'est dicté par certains dogmes régis par exemple des médias ?
Alors effectivement, toute l'histoire de la nutrition, y compris sans doute celle de l'évolution plus en amont, c'est qu'on a eu du mal à se nourrir. Et donc finalement, si on regarde précisément précisément les deux derniers siècles, il y avait des carences, il y avait des malnutritions, et toute l'humanité a toujours considéré comme un progrès énorme, et la science le confirme, le fait de disposer d'un maximum de chances de rencontrer des protéines végétales, certes, mais aussi des protéines animales, de ne plus être carencé en vitamines. Donc l'histoire de la nutrition, c'est l'histoire des carences et des morts. Il se trouve que maintenant qu'on est repu, on se permet, bêtement, je le dis bêtement, pour des raisons effectivement de névrose, d'attribuer certains de nos petits bobos, les causes de certaines maladies, de mal-être, etc., etc., à trouver des boucs émissaires, et donc la nutrition en fait partie. Mais le seul problème qu'on a avec la nutrition, disons, de pléthore, c'est la quantité d'énergie, mais tout le reste qui conduirait à une éviction d'un pan entier des nutriments, du genre pas de produits laitiers, alors que toute l'humanité s'est battue pour en disposer, pas de produits animaux, alors que toute l'évolution montre que ça a résolu tous les problèmes de carence en fer, en vitamine B3, en vitamine B12, et également en principaux acides aminés indispensables. Tout ça, c'est oublié par quelques-uns qui font, tels que des gourous, des informations totalement erronées, conduisant à des réflexes d'éviction. C'est très très récent, les évictions, et vous avez raison de le souligner. On s'est battu pendant 2 millions d'années pour disposer de tout et en particulier de produits animaux. Et puis là, d'un seul coup, on en fait des boucs émissaires. C'est sur le plan scientifique une erreur. C'est sans doute respectable sur le plan des choix individuels, mais ça n'a pas de justification et ça entraîne une prise de risque.
Je pense immédiatement à l'aliment qui est tant décrié depuis tant d'années. C'est l'huile de palme. Pourquoi doit-on s'en priver ? Elle est peut-être meilleure que ce qu'on croit sur un plan nutritif.
Alors l'exemple de l'huile de palme est très intéressant. Pour être clair, il n'y a pas de mauvaise huile parmi celles que l'humanité a développées pour survivre. Donc c'est une huile qui permet de nourrir des tas d'enfants et des tas d'adultes dans des tas de pays du monde. C'est une huile de fruits, donc elle est très riche en antioxydants, comme l'huile d'olive par exemple. Elle est également riche en bêta-carotène, une des vitamines importantes pour la nutrition humaine. Mais sur le plan des acides gras, elle ne contient que de l'acide palmitique principalement, et puis un petit peu d'acide olique, donc elle n'est pas intéressante. Mais en nutrition, il faut bien distinguer le fait de ne pas être très intéressante avec le fait de ne pas lui attribuer des caractères dangereux. Elle n'est en aucun cas dangereuse, mais elle contient les acides gras dont on souhaite, nous, société repue, diminuer l'apport. Du coup, on ne va pas en faire la promotion. Donc pour nous, elle n'est pas intéressante. Cela dit, c'est une huile qui permet de sortir de la pauvreté un certain nombre de pays qui la fabriquent. Elle a un très haut rendement par rapport à l'agriculture de ces pays-là. Et puis, elle est nourrie quand même, donc il faudrait qu'ils aient autre chose. Alors nous ici, on a des états d'âme, je ne parlerai pas ce que je connais pas, c'est-à-dire l'aspect écologique, mais sur le plan nutritionnel, elle n'est chez nous pas intéressante, mais elle n'est pas non plus dangereuse. Et en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en consomme très peu. Comme huile, vous ne la trouverez pas dans les magasins, il n'y a pas de flacon d'huile de palme. En revanche, quand on la consomme sans l'avoir, dans les produits fabriqués par les industriels, qui donc s'en servent pour faire, comme vous le savez, les fourrages des biscuits, certaines pâtes à tartiner. Et dans ce cas-là, en fait, ce qui est tout à fait rassurant, non pas en termes de toxico, puisqu'elle n'est en aucun cas dangereuse, c'est qu'on en consomme en moyenne que 2 à 3 grammes par jour, sachant que le Français moyen consomme 90 à 105 grammes de lipides. Donc c'est un non-événement en termes de quantité consommée également. Et enfin, ça a permis au niveau industriel de remplacer les acides gras trans dont on souhaitait la diminution par l'huile de palme. Donc c'est un petit argument supplémentaire que je vous donne pour dire finalement, en conclusion, il n'y a aucun danger et ça n'est qu'un non-événement nutritionnel pour nous ici.
Ça veut dire qu'on peut continuer à manger la fameuse pâte à tartiner qu'on adore tous.
On peut continuer à manger toutes les pâtes à tartiner que vous voulez. La question, c'est simplement éveillons notre bon sens pour se dire que si on en met 1,5 cm sur 18 tranches de pain, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de nutrition pour essayer de percevoir que là, c'est peut-être un excès. Tout en nutrition qui pose problème n'est qu'une question d'excès, en fait. On ne connaît pas de mauvais aliments, on connaît juste de sottes consommations, c'est-à-dire les gens qui échappent à leur bon sens ou ne veulent pas l'écouter et se jettent sur des surconsommations de ceci. Et c'est pas beaucoup plus malin que de se jeter, si j'ose dire, sur des évictions de cela, parce que dans les deux cas, on est dans la caricature et que la biologie nous indique que c'est toujours entre les trop basses doses et les trop hautes doses que se situent les régulations biologiques assurant le maximum de santé pour nos cellules.
L'idéal, c'est d'être omnivore.
Absolument. Nous sommes omnivores. C'est pas un choix. La science, l'archéologie, la taxonomie ne collent pas avec les groupes et les espèces. Pour ce qui concerne l'homme, on peut trouver tous les arguments qu'on veut. L'histoire démontre qu'on est omnivore et que dans l'ancien temps, puisqu'on ne disposait pas de tout, les spécialistes de ces disciplines-là nous qualifient bien d'opportunivores, c'est-à-dire qu'en fait, on a passé son temps à chercher à manger un petit peu de tout, mais clairement omnivore depuis toujours. C'est la situation normale. de l'espèce humaine. On peut choisir de ne pas être omnivore, mais ce ne sera pas justifiable par des raisons scientifiques. Ça ne peut l'être que par des raisons personnelles, idéologiques, philosophiques, religieuses. Beaucoup des gens qui ne sont pas omnivores éliminent les produits animaux. Il n'y a pas de gens qui éliminent les produits végétaux, parce que c'est du bon sens, il faut manger de tout. Et dans ceux qui éliminent les produits animaux, bien souvent, c'est basé sur une sensibilité au bien-être animal, la confrontation avec certaines images effectivement insupportables, mais ça ne conduit pas à une justification scientifique et nutritionnelle. Quand on est omnivore, on garantit le niveau de risque minimal par rapport aux déficits ou aux carences que toute l'histoire nous a hélas prouvé par des millions et des millions de morts dans les deux ou trois derniers siècles, à partir du moment où la nutrition était un petit peu connue. Et puis quand on est omnivore, on est garanti aussi d'avoir également l'apport des molécules que nous, scientifiques, ne connaissons pas forcément encore, mais qui auront, on est loin des grandes carences maintenant, mais sans doute, et on en découvre de temps en temps, un effet sur le vieillissement ou le confort de vie. Donc intellectuellement, j'insiste sur l'idée que celui qui refuse d'être omnivore, intellectuellement, il se prive de molécules qu'on ne connaît pas encore. Donc intellectuellement, c'est aussi un argument qui est entendable pour dire que décidément, le caractère omnivore est la garantie du moindre risque nutritionnel et donc des meilleures conditions de sécurité. C'est le respect du principe de précaution.
Ça veut dire quoi finalement? Que dans un futur plus ou moins proche, nous allons tous nous retrouver à force d'éviction avec des carences et avec tous les effets qui vont arriver. Par exemple, tu as une carence en fer, et bien une possible perte des cheveux. On va tous se retrouver complètement différents d'il y a 50 ou 100 ans.
Alors non, rassurez-vous, parce que le bon sens fait quand même partie de l'humanité. Les évictions ne sont pas si courantes que ça. C'est pas parce que la période est un petit peu sensible à ça. Par exemple, les végétariens, il y en avait 1% de la population française en 2008. Là, c'est 4, 4,5 à peu près. Donc effectivement, c'est une croissance. Mais elle va très vite atteindre un plateau que je pourrais qualifier du plateau du bon sens. Et les scientifiques et les médecins qui sont des gens de terrain, ils vont réagir. Les pédiatres et les nutritionnistes pédiatres, ils commencent à tirer le signal d'alarme. Ils veulent pas voir arriver, comme c'est le cas de temps en temps, des enfants en totale dénutrition venant de milieux extrêmement favorisés chez nous, tout simplement parce que après le sevrage, ils ont reçu exclusivement du jus d'amande. Donc ce sont des enfants équivalents aux enfants malnutris d'il y a un siècle dans nos pays et qui, hélas, existent encore dans les pays en voie de développement. C'est quand même un comble de voir ça à Paris, dans les beaux quartiers, alors que la malnutrition était quand même vaincue. Les responsables de santé publique se doivent de dire ces choses-là parce qu'un adulte fait ce qu'il veut. Le risque est d'ailleurs assez réduit chez l'adulte quand il fait des évictions. Mais les groupes faibles ou fragiles de notre population, et c'est les enfants d'un côté, surtout eux, et les vieillards, ne doivent pas subir les passions évictrices des adultes qui croient bien faire, mais qui en fait les envoient franchement dans le très très haut risque. Et il y a des cas, la malnutrition et quelques morts.
Justement, je rebondis sur ce que vous disiez il y a quelques minutes. C'est étonnant de constater que c'est dans les populations les plus aisées que l'on retrouve des enfants en malnutrition. On tend de plus en plus à être difficile. Il n'y a que une certaine frange de la population, peut-être minoritaire, qui s'autorise le luxe de se priver. C'est quand même...
C'est surprenant. Moi, je suis biochimiste, pas sociologue, mais ces sujets de nutrition, comme paraît-il la psychologie, dont je ne dirais évidemment rien, nos sociétés, à leur stade, ont le côté sympathique de s'approprier tout, c'est-à-dire un avis en vaut un autre. Bon, comme citoyen, je trouve ça assez marrant, mais ça atteint, pour certains, un stade qui est contre-productif, et en matière de nutrition, c'est le cas. C'est-à-dire, si certains s'approprient tout, ça veut dire que leur idée sera dominante sur une quelconque connaissance qu'ils ne reconnaissent plus, finalement. Donc on est dans l'idéologie, on peut même employer le mot radicalisation nutritionnelle dans ce cadre-là, et vous savez comme moi que une radicalisation ou une idéologie, ça amène au combat et surtout, ça amène à des applications qui, si elles ne sont pas plus contrôlées, soit par la connaissance, soit par le bon sens, quel que soit le niveau d'études, et c'est le cas évidemment, comme vous le dites, de ces milieux plus favorisés, eh bien, leur oreille ou leur bon sens ne fonctionne plus vers la connaissance d'un domaine qu'ils pensent finalement connaître à tort, mais finalement c'est leur passion, leur crainte, voire leur névrose qui leur fait perdre pied par rapport à ce que peuvent dire les médecins, les diététiciennes, et puis en amont, nous qui formons un peu tout le monde par les connaissances de base.
Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vis dans les futailles, à nous la répaille. Quand l'appétit va, tout va.
Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vive les quenottes qui croient qu'ils grignotent. Quand l'appétit va, tout va.
Les sangliers d'Obélix.
Écoutez ce qui va suivre. Le vieux proverbe est changé. On ne mange pas pour vivre. Il faut vivre pour manger.
Quand l'appétit va, tout va. Pour la santé, y a que ça. La pure émotion, c'est quand on a son estomac dans les talons.
Les petits points frais, les bons gros, sur un rythme d'allégro. Pour manger et boire, font jouer des mâchoires. Quand l'appétit va, tout va.
L'essence d'idées fixes.
Papa dit pom pa de pain. Papa dit pom pa de pain. Papa dit le pain vin.
Obélix, mon cher amour, je t'appuierai toujours. Mais le roi des rois, désormais c'est toi. Quand Obélix va tout droit.
Cléo, j'aime ton nez mignon. J'aime aussi les champignons. Et puis les saucisses et le pain d'épices. Quand l'appétit va tout bas. Quand l'appétit va, tout va.
Fromage, c'est une belle qui n'a qu'un œil. C'est un oiseau sans plumage. Une forêt sans écureuil.
Quand l'appétit va,
tout va.
Quand l'appétit va,
tout va.
Veuillez rendre hommage
au glorieux fromage.
Quand l'appétit va,
tout va.
Quand le chameau passe et là.
Mais non, j'ai une bosse, je suis un dromadaire, pas un chameau. Oh, c'est agaçant à la fin.
Quand l'appétit va tout bas, quand l'appétit va tout bas, vive les quenottes qui prennent des grignotes. Quand l'appétit va tout bas, ne l'oubliez pas pour absent, l'appétit vient en mangeant.
Vive dans les putains, viens nous la ripaille, quand l'appétit va tout bas.
Vous l'avez précisé, vous êtes biochimiste, hein, pas sociologue, mais bon, sur le thème que nous abordons, il est inévitable de parler des comportements sociaux devant notre assiette. Et alors, il y a également une frange de la population très omniprésente, peut-être plus discrète sur ce sujet, qui se carence sans réellement le vouloir, bah, c'est la population estudiantine, qui, par manque de ressources, pour beaucoup, sont obligés de faire des exceptions sur le plan nutritionnel. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ?
Alors, on peut d'abord rassurer, c'est-à-dire, quel que soit le niveau de revenu, ce qui est disponible, peut-être pas en grande qualité gustative, puisque les produits industriels, à force de stériliser, et c'est normal, pour des raisons de sécurité, ont quand même comme effet de diminuer un peu les goûts, les arômes qu'on peut trouver dans une alimentation ou des sources plus artisanaux. Donc, même avec des petits budgets, dans nos pays, tout est disponible. Donc, un étudiant, même à petit budget, si dans sa tête il est omnivore, il n'aura pas de carence ou de déficit spécifique à l'étudiant. En effet, avant d'être étudiant, il était gamin, et s'il a cru sans se croître dans un milieu omnivore, il a tout ce qu'il faut, il n'a pas beaucoup plus de risques que tout le monde. Quand il sera plus à l'aise, peut-être qu'il fera un petit peu plus attention à acheter, peut-être aussi en termes de praticité. L'âge d'étudiant, on n'a pas le temps, on ne fait pas forcément trop de cuisine. Donc, voyez, c'est d'après peut-être dans la vie en vieillissant qu'il prendra plus attention à la qualité nutritionnelle, mais je dirais c'est presque une question de qualité gustative et de plaisir à table, alors que là il est dans l'âge de la super convivialité. Donc je rassure, pour toutes ces raisons-là, il n'y a pas de malbouffe, il y a un niveau de goût et de qualité gustative qui fait qu'il y a des aliments un petit peu plus chers que d'autres. Mais l'avantage, grâce à l'industrie, il faut le dire, hein, ce n'est pas des philanthropes et on peut trouver des limites à ces raisonnements-là, mais donne à disponibilité pratiquement pour toutes les bourses et tous les accès et tous les âges une nutrition qui est sur le plan sanitaire impeccable puisqu'on ne s'intoxique pas, et sur le plan nutritionnel globalement très très bien.
Il y a également les gens qui sont et qui peuvent être dans la précarité, par exemple je pense à un premier emploi qui mène à l'émancipation, à un premier logement, donc on peut être loin de chez ses parents, et donc du coup on perd ses habitudes alimentaires que notre papa, notre maman, ou n'importe qui, a pu nous inculquer, et du coup on peut changer, dans certains cas, radicalement d'alimentation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? Parce que ça peut être un blocage, on n'a même plus envie de se faire cuisiner, parce qu'on a été habitué à ce que l'on cuisine pour nous.
Alors c'est vrai que c'est un changement de vie, vous le présentez en négatif, mais ça n'est pas que négatif, c'est-à-dire on peut aussi supposer que même si c'est papa-maman qui ont éduqué, ils peuvent même, de bonne foi sans doute, hein, s'être trompés, et en particulier sur le quantitatif. Il y a des familles où la perception de ce qui est nécessaire est trop forte, clairement, sur l'aspect quantitatif, et l'étudiant ou l'étudiante qui va être livré à lui-même, finalement, il va peut-être se dire, mais quand je mange moins, je suis pas mal non plus. Ils sont issus d'une famille des victeurs, comme on était tout à l'heure, peut-être qu'en devenant étudiant, ils vont échapper au risque. S'ils sont issus d'une famille de caricatures carnivores, peut-être qu'en devenant étudiant, ils vont manger un petit peu moins de viande, et dans le fond, c'est pas forcément négatif puisque leur croissance est terminée. Donc, il y a tous les cas de figure, je crois. Et la réponse, qui est un petit peu facile, c'est de se dire l'éducation nutritionnelle. C'est pas seulement pendant l'enfance, même si c'est effectivement très très important, et la découverte, l'échange à quoi correspond la vie étudiante, c'est une des périodes d'échange les plus riches, il y a quand même de l'info. Donc le bon sens et une recherche honnête de l'éducation nutritionnelle fera trouver les bons messages. Et effectivement, on n'a pas trop le temps de faire la cuisine quand on est étudiant, c'est sans doute pas la période où on est le plus équilibré en nutrition, mais globalement le bon sens n'a pas d'âge et les étudiants n'en sont pas démunis. Et puis l'éducation nutritionnelle, elle va être confrontée, comme pour le reste des questions de la vie, eh bien, à des informations nouvelles qui seront peut-être moins bonnes que celles des parents, mais peut-être aussi meilleures. Et puis l'intelligence, c'est quand même ce qu'on peut souhaiter d'appliquer aussi à la nutrition, comme pour le reste des études.
On va revenir sur ce que vous pratiquez, ce que vous faites ici à l'Agrocampus. On va d'abord, pour nos auditeurs, expliquer quelle est la différence entre les acides gras saturés et les acides gras insaturés qui composent grand nombre de nos aliments.
Alors si on précise maintenant les aspects lipidiques, les lipides c'est pas que des acides gras, mais 95% des lipides ce sont des acides gras. Les autres c'est des vitamines liposolubles et puis un peu de cholestérol et quelques molécules marginales. Et donc les acides gras constituent nos stocks de lipides et aussi nos membranes cellulaires. Il y a plusieurs classes d'acides gras. Les acides gras saturés sont donc des chaînes carbonées sans aucune double liaison. Les acides gras insaturés ont des doubles liaisons, donc ça parlera évidemment à ceux qui sont un peu plus cultivés dans ce domaine, avec, quand il n'y en a qu'une, les monoinsaturés, quand il y en a plusieurs, les polyinsaturés. Voilà. Et dans cet ensemble d'acides gras, la plupart, on sait les faire, on les fabrique à partir du sucre, du glucose, on les fabrique à partir de l'alcool aussi, pour ceux qui en boivent. Et en revanche, il en reste quelques-uns qu'on ne sait pas faire, mais dont on a besoin. Donc dans le domaine des acides gras, il y a deux acides gras et deux familles d'acides gras qui sont indispensables au sens de la nutrition, comme pour une vitamine. Ils se sont appelés vitamines d'ailleurs dans l'ancien temps, à savoir, ils sont rigoureusement requis et on ne sait pas les faire, donc on doit les trouver dans l'alimentation, c'est les acides gras oméga 6 et oméga 3. Il se trouve qu'en oméga 6 ça va, les sources végétales, animales sont tout à fait correctes, la population n'a pas de déficit. En oméga 3 en revanche, la population est déficitaire, pour des raisons dont la première est que ces acides gras oméga 3 ne sont pas si présents que ça à la surface de la planète, et donc ce sont des acides gras assez rares. Mais vu les bienfaits qu'on en attend, suite à l'ensemble des recherches des disciplines concernées, il y a une politique de santé publique qui indique que sur ces acides gras-là, on doit faire des efforts de santé publique, donc très collectif, pour essayer de remonter l'apport dans la population générale, et là, enfants, adultes, vieillards, mais on est clairement en déficit. On ne dit pas carence, parce qu'il n'y a pas de pathologie associée, mais déficit parce qu'il y a des marqueurs associés dont on sait, en revanche, qu'en termes de prévention, ça n'est pas bon pour espérer une longue vie en bonne santé, d'en être déficitaire. Donc voilà, en gros, il y a des nutriments indispensables dans les vitamines, dans les acides aminés, et également, pour ce qui concerne les lipides, c'est pas que du gras un peu bêta dont on a l'image, mais aussi deux familles d'acides gras indispensables, très nobles, avec des fonctions importantes, en particulier dans la construction cérébrale.
On nous dit tout le temps, de plus en plus même, manger moins gras. Mais il y a donc, nous apprenons là à l'instant qu'il y a quand même du gras qui est bénéfique pour notre santé et qui serait même dommage de s'en priver. Je pense notamment à l'huile d'olive.
Alors avant de citer des huiles, le gras, c'est-à-dire les lipides pour le nom précis, est vital. C'est-à-dire c'est la constitution de nos membranes, c'est la constitution de certaines hormones qui dérivent du cholestérol. Bref, la vie sans lipides n'est pas possible. Donc les exagérations du passé en disant éviter les lipides n'étaient dues qu'à l'excès de leur consommation et des réactions un petit peu éducatives fortes, parce que ben, c'est comme ça dans les sociétés, on a tendance à voir le bon ou le mauvais. Donc le gras est vital. Les lipides ont des fonctions tout à fait nobles pour construire les membranes, pour construire le cerveau, pour construire des hormones, etc. Pour assurer des fonctions comme la lutte contre l'inflammation dans les pathologies, etc. En revanche, ce qui est net, c'est que depuis la Seconde Guerre mondiale, comme l'alimentation est très abondante et que les populations sont plutôt repues, comme on dit, les excès sont apparus, mais ce sont des excès quantitatifs qui n'ont en aucun cas une justification pour dire éviter les lipides, bien sûr. Donc excès quantitatif, ça veut dire quelle est la bonne dose. Et là, vu que nos tissus, quand on est en excès, c'est-à-dire le tissu adipeux, hein, le gras dans la bedaine, dans les fesses, et puis le cholestérol dans les artères, étant donné qu'on a un certain nombre de gens qui subissent ça, le réflexe historique, c'est de dire ben, si on n'en veut pas de ces molécules-là au mauvais endroit, au mauvais moment, il ne faut pas les consommer. Mais c'est une erreur. La réponse, c'est eh bien, il faut peut-être en consommer moins, mais regardez aussi côté scientifique, ce que disent les chercheurs, donc nous, pour indiquer que c'est finalement le total d'énergie qui compte, car comme les lipides constituent notre stock et qui sont très légers en poids, très concentrés en énergie, eh bien la nature a sélectionné que tous nos excès d'énergie seraient lipidiques. Mais ça ne veut pas dire que dans nos lipides, qu'on traîne dans nos bedaines, c'est uniquement les lipides qu'on a mangés, puisque tout excès de glucose, les sucres, les boissons sucrées, ou tout excès de glucose issu, disons, des féculents, je parle de l'excès, hein, y a aucun mauvais aliment, conduiront, s'ils ne sont pas utilisés dans le cadre d'une activité physique ou du sport, à une transformation dans notre organisme en lipides. Donc oui, notre bedaine, c'est des anciens glucides et des anciennes molécules d'alcool non brûlées qui se joignent aux lipides qu'on a consommés. Alors, il y a une trentaine d'années, il y a eu des études de fait et on a vu qu'en diminuant la part des lipides dans l'alimentation américaine, l'obésité avait augmenté. Alors, ça ne veut pas dire que c'est qu'il faut manger plein de lipides pour éviter l'obésité. Ça veut simplement dire que c'est pas en diminuant les lipides qu'on résout le problème. Si on compense en mangeant des glucides en excès, ça conduit exactement à la même chose. Et donc pour les étudiants de sciences, ça leur paraîtra évident que finalement ce qui compte, c'est le bilan thermodynamique, c'est-à-dire nos apports par rapport à nos dépenses. Que ce soit lipidique, glucidique ou alcoolique, c'est exactement pareil, tout se termine dans des lipides. Et de ce fait, finalement, le raisonnement est simple, les lipides, c'est pas la haine contre eux. Et de ce point de vue-là, vous signaliez que c'est toujours les discours qu'on entend, mais ils vont changer, et ils changent déjà un petit peu, puisque la masse de connaissances scientifiques nous invite à dire, en fait, pas trop d'attention et de haine anti-lipides, mais le total d'énergie doit correspondre à nos dépenses, sinon on stocke. Et donc c'est en gros, mangez moins de tout, ou bougez plus. Si vous voulez pas bouger, ben mangez moins, puis si vous voulez manger autant, ben bougez plus.
Cette première partie sur deux de notre entretien avec le professeur Philippe Legrand, biochimiste à l'Agrocampus de Rennes, s'achève. Il était question de nos idées reçues sur l'alimentation ainsi que de notre comportement débiteur face à nos assiettes. Une thématique en lien avec l'exposition Bon Appétit, visitable à l'espace des sciences des Champs Libres de Rennes, jusqu'au 4 septembre 2016. Vous pouvez retrouver le différé de cette émission ainsi que les précédents numéros d'Enjeux de santé sur le site radiocampusrennes.fr. À bientôt et prenez soin de vous.